Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, au rendez-vous de notre café des sports. C'est d'ailleurs le dernier de la semaine, évidemment, hein. On referme une semaine de football, mais surtout c'est le dernier de l'année 2018. Et oui, déjà, fin d'année, les calendriers des footballeurs s'allègent dans certains pays. Dernière journée de championnat en France ou en Espagne. Neymar a même pris les devants. Il est parti au Brésil. Il a même eu le temps de changer de coiffure. Allez voir ça sur les pages Facebook ou sur Instagram, et même le réfé est parti en vacances aussi, alors on fera sans lui. Mais certains s'entraînent encore comme les Merengues, motivés par un nouveau trophée, eux qui sont déjà double tenants du titre au Mondial des Clubs. Le Real Madrid jouera demain son dernier match d'une année mouvementée face au Al Ain des Émirats Arabes Unis. Y a-t-il vraiment du suspense, voire de l'intérêt à suivre cette compétition? C'est une question qu'on se posera. La Première Ligue et son Boxing Day, pas de répit pour les équipes d'Angleterre. 4 journées de championnat disputées en 10 jours, malgré les fêtes et entre les fêtes. Les Reds en ressortiront-ils invaincus? Leurs adversaires, en tout cas, sont aux aguets. Petit tour, nous le ferons par l'Italie où se jouera aussi quelques matchs malgré les fêtes. Ailleurs en France, on prépare plus tôt le mercato et on verra ce qu'il peut se passer du côté de l'OM et de Monaco. Enfin, pour terminer l'année, nous proposerons à nos invités du jour un petit test sonore, une nouveauté avant les cartons donc de l'année 2018. Rémi Ngono, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tout le monde.
Vous êtes prêts?
Très prêt.
Très prêt pour cette dernière année, parce que là, il faut que les auditeurs, ils en prennent pour 15 jours, là, pour pas nous reprocher trop d'être absents. Xavier Barré, bonjour.
Bonjour Annie, bien prêt aussi à donner la réplique à Rémi Ngono.
Et puis je suis sûre que Nabil est tout à fait prêt aussi. Bonjour Nabil.
Oui, le bonheur est dans le prêt, je vous confirme.
Pourtant, vous venez de la montagne, c'est ce que j'ai entendu dire.
Effectivement, oui.
Vous avez pris l'air frais?
Oui, c'était agréable. Je peux le dire, vers Morzine à Varias, un domaine skiable fantastique qui me rappelle que la France est un beau pays avec une diversité de paysages qu'on ne cesse de découvrir.
Voilà. Radio Foot, le café des sports, les débats sont ouverts.
Marcelo, la remise parfaite pour Gareth Bale et le but en faveur du Real Madrid. En moto, attention, le ballon en retrait, l'erreur, et Bale va sans doute marquer le deuxième but en faveur du Real Madrid. Gros regret pour Go. Oiwa, l'entraîneur de Kashima. Ballon de triplé pour Bale. Golasso de l'attaquant gallois, grand sourire. Bale 3, Kashima Antlers 0.
Le Real Madrid dans la chaleur hivernale du golfe Persique. Les joueurs sont aux Émirats Arabes Unis pour tenter de décrocher une autre coupe du Mondial des Clubs. Eux, les champions d'Europe, déjà double tenant de ce titre. Et c'est donc grâce au triplé que vous venez d'entendre, inscrit par Gareth Bale contre le club japonais Kashima Antlers. Et vous avez reconnu ces tambours japonais. Eh bien, c'était en demi-finale, puisque le Real Madrid a le privilège d'arriver dans cette compétition pour la demi-finale. Ils sont donc en finale, les Merengues, pour jouer face à l'équipe locale, le surprenant Al Ain, qui s'est défait de River Plate, éliminé au tir au but dans le match précédent. Alors, pour les joueurs de Santiago Solari, qui a déjà gagné d'ailleurs cette compétition, lui, c'était il y a des temps un peu anciens, en 2002, lorsqu'il jouait avec le Real. Est-ce que pour ce Real, Rémi, gagner est une obligation?
Bien sûr. Les trophées pour un club comme le Real comptent énormément. Et puis, si le Real remporte, c'est que sera quand même le premier club à remporter ce Mondial des clubs 3 fois d'affilée. Et les records, le Real aime bien cela.
Les aiment bien, bah oui. Voilà. Ils ont déjà gagné 3 fois d'affilée la Ligue des Champions.
Voilà, donc c'est comme ça. Donc, ce n'est pas un trophée qui est de pacotille, c'est un trophée qui est pris très au sérieux. Et la preuve, c'est que les joueurs du Real se sont donnés à fond. Quand on essaie de regarder comment est-ce qu'ils ont essayé de jouer ce match-là, j'ai dit, oui,
contre
c'est
le
une
Kashima.
Finale. Voilà, c'est
un Mondial des Clubs. C'était la petite mise en jambe du côté du Golfe Persique avant la finale.
C'est un Mondial des Clubs, ce qui signifie que celui qui remporte cette finale est le meilleur club du monde. C'est vrai que le Real Madrid l'est déjà. Ne serait-ce que sur l'indice UEFA où on se rend quand même compte que le Real c'est 144 000 points devant le Bayern et Barça qui sont à 127 000. Donc, le Real a intérêt à creuser encore la marge, donc c'est normal que le Real reste le meilleur club du monde.
Il y a d'ailleurs peut-être peu de suspense autour de ce match, Xavier.
Oui, enfin la saison dernière, si je me souviens bien, ils avaient quand même du mal à s'imposer. Mais c'est le contexte en fait qui rend cette victoire obligatoire au Real Madrid. Parce qu'ils auraient été en finale contre River Plate, on aurait dit oui, bon, ils sont contre le champion d'Amérique du Sud.
Il y a peut-être un peu de suspense.
C'est une équipe qui d'ailleurs venait de gagner son titre à Madrid, au Santiago Bernabéu contre Boca Juniors. C'est un club prestigieux, avec des jeunes joueurs, un bon entraîneur, qui a gagné beaucoup ces dernières années. On se serait dit, bon, le Real peut perdre cette finale. Mais là, contre Alain, et au passage, d'ailleurs, ça me fait avoir une pensée émue pour Bruno Metsu, qui avait été le premier lauréat de la Ligue d'Asie des clubs, avec ce club d'Alain au début des années 2000. J'avais eu l'occasion de le rencontrer là-bas dans l'Émirat d'Abu Dhabi. Et donc, ce club d'Alain est très structuré, mais il n'a pas, évidemment, la notoriété de River Plate. Donc, le
ils
Real
jouent
Madrid,
en blanc, comme les Merengues d'ailleurs,
oui,
c'est assez marrant.
En blanc et violet, oui. Ouais. Et donc, le Real Madrid a surtout la défaite interdite. À partir de ce moment-là, ils sont obligés de gagner.
Justement, Nabil, défaite interdite, mais pour plutôt faire oublier un peu ce début de saison chaotique.
Vu la qualité de l'adversité, c'est vrai que moi je me dis que c'est un tournoi amical pour le Real. Je suis désolé, Annie, je veux dire, je vois pas qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tournoi pour le Real.
Un trophée.
Ils vont faire le minimum syndical, ils vont gagner ce trophée. Après, il y a quand même une dimension de business aussi, puisque ça se passe en Asie, ça participe aussi à entretenir l'image du Real en Asie. Après, moi, je me fais pas trop d'illusions sur la saison du Real. Je veux dire que ce titre-là, il va venir remplir l'armoire du Real Madrid. Pour moi, c'est anecdotique. Je veux dire, je suis désolé, je donne pas une importance démesurée.
Nabil, s'ils perdent, c'est vraiment une catastrophe pour le Real.
Ils ont perdu contre Eibar, ils ont été bousculés par Huesca. Qu'est-ce que ça va
justement
changer?
Justement, est-ce que c'est une parenthèse quand même peut-être de...
Enchanté.
Oui.
Mais de battre Kashima Antlers, c'est Elaine, ça représente quoi dans l'histoire du Real Madrid?
Mais Kashima,
c'est surtout
match
de l'Ajax que j'attends moi.
En Ligue des Champions.
Non, mais on se souvient en plus qu'il y a deux ans, ils vont. Alors je sais plus où ça a lieu parce que ça change tous les deux ans. C'était au Maroc peut-être.
À Marrakech,
parce que
peut-être.
Ça a été entre temps au Japon. Oui. Et le déplacement
Marrakech
au Japon.
Marrakech et Tanger, il y avait eu le stade qui avait été imbibé du côté de Tanger et tout. C'était au Maroc.
Ouais. Et donc, ils se retrouvent contre Kashima Antlers. Ils ont eu beaucoup de mal à gagner parce que c'était une équipe japonaise qui avait
leur
avait
donné une réplique. Tu penses qu'ils sont motivés, les joueurs du Real, là, de jouer des matchs comme ça?
Ils sont un peu obligés de le gagner parce que ce que je disais à l'instant, ils sont en finale contre River Plate. Alors c'est une corvée à double titre parce qu'effectivement aujourd'hui cette compétition a du mal à effectivement trouver un vrai prestige. D'ailleurs la FIFA travaille sur une nouvelle formule, mais elle n'arrive pas pour le moment à l'installer parce que l'UEFA occupe le terrain. C'est un autre débat, on en reparlera peut-être une autre fois. Et puis surtout parce que il y a aujourd'hui une obligation d'image pour le Real de toujours gagner. Et quand, il faut rappeler une autre chose, c'est
ils
vont pas jouer en championnat ce week-end, ils vont se retrouver avec le match contre Villarreal à rattraper, ce qui va venir encombrer le calendrier. En janvier, il y a les matchs de Coupe, Coupe du Roi, aller-retour, donc ça va être compliqué pour Solari de faire ce qu'avait fait Zidane à l'époque, c'est-à-dire en profitant de l'élimination du Real de la Coupe d'Espagne, de faire une mini-remise en condition des joueurs. Là, on sait pas comment il va le faire.
Rémi, vous dites que s'ils remportent ce titre, ils seront donc le meilleur club du monde, certes. Mais en même temps, on se souvient de l'époque où il y avait la Coupe Intercontinentale. Oui. Et d'ailleurs, ils l'ont gagné plusieurs fois, le Real, ils l'ont gagné trois fois. Est-ce que quand même, ça n'avait pas plus de prestige avant le trophée que là, ou presque on l'attribue avant même qu'il décolle d'Espagne pour aller dans la ville où se déroule la compétition? On a l'impression que c'est eux qui vont le gagner.
On a l'impression, dites-vous. Mais ce n'est pas une certitude parce que en même temps.
Mais est-ce que vous avez déjà vu des petites équipes battre le gros européen dans cette compétition?
Attendez. Ce n'est pas un théorème. Et de toutes les façons, tout de suite, il vient de donner River Plate qui a été sorti par une équipe qu'on ne croyait pas aussi.
Mais vous avez vu aussi chemin de croix de ces derniers temps pour River Plate.
Ah oui, mais en même temps, je veux dire que quand vous voyez une équipe du CSKA Moscou venir battre le Real quand même 3-0. vous allez dire c'était en Ligue des Champions. Donc c'est un Real qui parfois est en dents de scie, dont on ne peut pas dire ce n'est pas le Real de Zidane, ce n'est pas le Real implacable, c'est un Real qui est parfois sur courant alternatif, ce qui signifie que ce n'est pas une certitude. Tout comme vous avez vu Bale, il fait un triplé, il devient tout de suite le très grand joueur, alors que à la veille du match on disait il faut absolument le vendre. Et même
il devient
le jour du match, d'ailleurs on dit pourquoi est-ce qu'on aligne Bale, et finalement il sort de ce match là et peut-être le jour de la finale il peut toujours plonger. Moi je ne trouve pas que c'est une finale au rabais, je trouve que c'est une finale parce que de toutes les façons c'est là, et même le parcours n'est pas totalement chaotique, hein. Ils étaient battus au premier match 3-0 à la 45e minute. Ils ont réussi à remonter. Avant de se qualifier là, oui, ils ont réussi à remonter pour l'adversaire du Real, c'était Al-Ain. Donc, de pour dire que c'est un adversaire coriace. Même le Real, vous allez voir que.
Non, mais le match de River, c'était 2-2.
Je vous le dis.
Il joue à domicile.
Tu vas pas nous faire croire que. Al-Ain, tu connais le championnat des Émirats, c'est de la CFA, c'est de la 4ème division. Je me demande comment ils sont arrivés en finale.
Sauf que c'est une finale. Et de toutes les façons, il y a un proverbe africain qui dit la route qui conduit à la gloire n'est jamais fleurie.
Juste une chose, Al-Ain, ce qui est amusant, c'est que l'entraîneur est croate.
Oui.
Et que l'entraîneur, qui s'appelle Zoran Mamic, a déclaré « J'espère que je ne suis pas la Croatie de cette Coupe du Monde des clubs, rajoute-t-il, parce que j'espère faire mieux que la Croatie en Coupe du Monde. »
Bah, c'est un beau clin d'œil. En tout cas, le parcours est réussi pour Al-Ain. Ils ont déjà gagné quelque part, malgré ce que m'explique Rémi. Alors évidemment, ce serait vous avez raison. Si le Al-Ain, par un miracle, je ne sais pas quel type de miracle ça peut être, bat le Real Madrid, ça fait tâche pour le Real, c'est une certitude. Mais il y a une telle différence, Rémi, il pourrait même envoyer les jeunes de la Castilla, très sincèrement. Moi, je discute
entre CSKA et Real. Il n'y avait pas de différence.
Entre CSKA et Real, il n'y a pas de
différence.
Est-ce que tu connais, alors je peux me permettre de te poser une question, est-ce que tu connais le niveau du championnat des Émirats?
Je le connais à travers ce mondial des clubs où je vois comment est-ce qu'ils ont réussi à jouer. Malheureusement,
il y a deux trois éléments qu'il faut quand même expliquer à nos auditeurs, Annie. C'est que ce club d'Al-Ain, c'est le club de l'émir d'Abu Dhabi. Donc c'est un club qui a beaucoup de moyens, des moyens financiers énormes, et que en fait ils se préparent pour ce mondial des clubs depuis qu'ils sont qualifiés, non pas en tant que champion d'Asie, puisque le champion d'Asie c'était Kashima Antlers, mais c'est champion des Émirats en tant que pays hôte. Je crois que c'est il y a 3 ou 4 ans. D'ailleurs, le champion du Maroc était allé en finale alors qu'il n'était pas champion d'Afrique.
Le Raja Casablanca.
Exactement. Donc ça peut arriver ces clubs-là effectivement se préparent pour ce rendez-vous parce que ils ont raté la marche de leur continent puisqu'ils sont pas champions d'Asie en l'occurrence, mais ils ont cette séance de rattrapage en tant que pays organisateur, ils la jouent à fond, ils sont préparés, conditionnés pour ça dans un contexte qu'ils connaissent parfaitement puisque eux sont les locaux. Voilà, donc ils ont réussi une très belle performance.
Tu crois que Al-Ain va battre le Real aussi?
Non, j'y crois pas du tout.
Je vous entends.
La seule chose, et à mon avis, il faut quand même que le Real fasse attention, c'est que cette équipe d'Al-Ain, c'est sa Coupe du Monde à elle, effectivement, comme disait le coach croate. Ils sont surmotivés. Après, la saison à elle est terminée. Je répète, tenter de dire peut-être que la décennie est peut-être terminée pour eux jusqu'à la prochaine coordination.
Peut-être qu'effectivement une défaite aurait de graves conséquences dans le championnat.
Mais même au-delà, pour la FIFA, vous imaginez le palmarès? Le palmarès, Real Madrid, Barcelone, Inter de Milan, Chelsea.
Non, mais justement, ça donnerait du crédit à la compétition. Que ça puisse, qu'il puisse y avoir une alternance. Je suis pas sûr que ça les dérangerait tant que ça. Quelque part. Oui, ça voudrait dire que ça a un sens. Parce que si le sens de cette compétition, c'est à chaque fois les équipes européennes qui arrivent et qui font pas
ils
ont même pas le même format.
Les équipes sud-américaines, elles l'ont emporté.
Oui, Sao Paulo, Corinthians.
Moi, il y a deux choses qui m'interpellent, si je peux me permettre. C'est qu'en réalité, cette Coupe du Monde des clubs, elle vaut sportivement que par l'affrontement potentiel entre le vainqueur de la Ligue des Champions européenne et le vainqueur de la Copa Libertadores.
Qui n'a donc pas lieu.
Et ce qui m'a dérangé, et je vous le dis très sincèrement, Annie, c'est surtout la performance du champion d'Afrique, l'Espérance de Tunis, qui se fait claquer par Al-Ain 3-0. Ça, en revanche, ça m'a beaucoup gêné, parce que ça révèle des choses quand même sur le niveau des compétitions de clubs en Afrique.
Ou de la motivation.
Ouais, mais... Bah, je pense qu'ils étaient motivés quand même. Alors, je me mets à la place d'un joueur de l'Espérance. Si je bats Elaïn,
justement là où je voulais revenir avec Xavier Barré et vous-même, quand vous me dites que est-ce que je connais le niveau de ces clubs-là. Et voilà, justement,
l'Espérance.
Voilà, tu es retombé dans ton propre piège. Puisque tu dis, ils ont claqué 3-0 à Espérance de Tunis, que nous passons le temps avant qu'ici, y compris Xavier Barré.
Ouais. Non, mais c'est ce pourquoi moi je dis que ça pourrait faire tâche au palmarès. C'est parce que, on évoquait les champions d'Amérique du Sud qui ont été sacrés dans cette compétition, bien sûr. Le TP Mazembe qui allait en finale en tant que champion d'Afrique en 2010 contre l'Inter de Milan. Mmh. Mais là, c'est le pays organisateur, c'est pas le champion d'Asie. C'est le club du pays organisateur qui a été mis dans des conditions idéales pour faire une performance, qui arrive en finale, mais qui n'a quelque part aucune légitimité pour jouer avec les champions des continents puisqu'il ne l'est pas lui. C'est pour ça que je dis que ça ferait tâche. Ouais,
c'est un peu bizarre. Mais
non, mais les pays organisateurs ont toujours été comme ça, même quand vous organisez une compétition, que ce soit la Coupe du Monde, la France d'office est qualifiée, ça on le sait.
Pas dans le premier mondial des clubs, ils ont corrigé après, parce que le premier mondial des clubs, effectivement, le champion d'Asie était un club saoudien, j'y étais, c'était en 2005 à Tokyo, et il n'y avait pas de club japonais, et du coup ça avait été un bide populaire, parce qu'il n'y avait pas de club.
Donc c'est
l'année d'après qu'ils ont décidé de rajouter le club du pays organisateur.
Oui, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 6 équipes.
Hein, Révise tes fiches, comme une gono.
Ah non, mais ce n'est pas pour ça que tu vas dire que c'est au rabais si on en joue. C'est-à-dire que l'Euro, c'est avec le pays organisateur, la CAN, c'est avec le pays organisateur, toutes les compétitions, c'est avec le pays organisateur. Et finalement, la Coupe du Monde des clubs, vous dites que c'est au rabais parce qu'on ajoute le pays organisateur.
Ça dépend quel est le pays qui
accueille. Enfin, pour la CAN, on ne connaît pas encore le pays organisateur.
Peut-être que Rémi Gono a une idée sur le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations.
Allez, en tout cas, ce match, cette finale aura lieu, ça sera demain à 17h30, heure de Paris, 16h30 en temps universel, et c'est ça joue donc à Abu Dhabi. Pas de repos du guerrier pour les joueurs au royaume d'Elisabeth. Ils le savent, la tradition est de jouer le lendemain de Noël, le fameux jour de derby devenu depuis 1871 un Boxing Day, et ce qui désigne maintenant toute la période entre les deux fêtes. Et d'ailleurs, en première ligue, eh bien, nous aurons 4 journées en 10 jours. On ne gagne pas un championnat à cette période, mais on peut le perdre, dit-on, de cette période du Boxing Day. Alors, une première question, je vous la pose, Nabil Djellit. Est-ce que l'invincibilité de Liverpool est menacée pour ce Boxing Day? On a un petit peu le programme. Ils ont pas des matchs extrêmement difficiles, sauf un Manchester City-Liverpool.
Ils ont Arsenal aussi, non?
Le 3 janvier. Vous avez raison. Liverpool-Arsenal à domicile. Et ensuite, Manchester City-Liverpool. Donc, 2 matchs des 4 extrêmement difficiles pour Liverpool.
Et ce soir, ils jouent un match qui ne sera pas forcément simple à Wolverhampton.
Oui, exact.
Qui est une équipe qui a notamment accroché. Alors, certes, c'était en début de championnat, Manchester City avec un partout. Oui, je pense que ça va leur
c'est la seule équipe invaincue d'Angleterre. Et je crois qu'en Europe,
ils sont 3, le PSG.
Le PSG et la Juventus.
Et la Juventus de Turin, vous avez totalement raison.
Match.
Mais je pense que
Dortmund
oui. Je pense que oui, parce qu'à la différence de Manchester City, il y a une réalité avec Liverpool, c'est que pour être compétitif et très compétitif, ils ont un groupe ou un noyau de joueurs, comme on dit en Belgique, qui est beaucoup plus restreint. C'est-à-dire qu'ils tournent sur 13 ou 14 joueurs, grand maximum, Jürgen Klopp. Et là, vous venez de dire qu'il y avait 4 matchs
en 10 jours.
Donc il va quand même. Soit vous faites pas de turnover et vous prenez des risques de blessures sur des joueurs importants, et ça peut vous coûter la deuxième partie de saison, ça peut aussi vous coûter la Ligue des Champions. Donc voilà, si vous perdez, je dis n'importe quoi et je leur souhaite absolument pas, mais si vous perdez un Mané ou un Salah, c'est absolument irrémédiable pour Liverpool.
On l'a vu l'année dernière.
Voilà.
Hein,
si vous êtes Manchester City, je dis n'importe quoi, vous perdez Sterling, vous avez Mahrez derrière, vous perdez David Silva, vous avez Kevin De Bruyne derrière.
Je pense pour moi ils sont
menacés sur cette séquence.
Ils sont menacés, mais je suis pas aussi pessimiste que Nabil Djellit. Pour une raison très simple, c'est que j'avais évoqué d'ailleurs ce cas-là dans le 11 d'Europe lundi soir, c'est que Liverpool a ses rendez-vous qui vont s'étaler sur 13 jours. Ils commencent cette séquence ce soir en match avancé et ils vont jusqu'au 3 janvier.
Ça s'étire. Ils font le premier de cette première journée
cette
et le dernier
Alors que dans le même temps, Tottenham va jouer le même nombre de matchs sur 9 jours seulement.
Je crois qu'Arsenal. City, Xavier.
Oui, attends. Arsenal, c'est sur 10 jours. Et je crois que Manchester City et Man U, c'est sur 11 jours. Bon. Donc, Liverpool est celui qui, dans cette séquence-là, de 4 matchs, 4 journées, est le mieux servi par le calendrier. Alors, il y a des circonstances. Il ne jouait pas en Coupe de la Ligue.
Qu'est-ce que tu réponds au fait que leur banc est quand même beaucoup moins large?
Attends, je finis.
Est-ce que c'est pas une histoire de 48 heures, quand même?
Alors, ils jouaient pas en Coupe de la Ligue cette semaine parce qu'ils avaient été éliminés par Chelsea dès le premier tour. Quelque part, c'était un mal pour un bien, alors que Manchester City, Tottenham, Liverpool, Arsenal jouaient cette semaine en Coupe de la Ligue. Voilà. Les quarts de finale.
Donc,
du coup, cette équipe de Liverpool a une amplitude pour jouer ses matchs.
Et
bien
pour préserver son invincibilité.
Pour préserver son, et pour surtout permettre à ses joueurs de récupérer.
Est-ce qu'on peut retenir ce qu'il dit, et quand on se revoit en 2019,
on peut enregistrer.
Vous pouvez l'enregistrer, et je vais même rajouter une chose, Annie.
On met un restaurant qui est que ça tombe leur invincibilité.
Tu étais pas dans le 11 d'Europe, Nabil, lundi soir, exceptionnellement, puisque t'étais au ski et t'as bien de la chance. Mais on en a parlé lundi soir. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, il y a aussi le tour de coupe derrière, Annie. Premier tour de la Cup, la fameuse Cup.
Oui,
et tous les grands clubs jouent, évidemment, puisque là, il n'y a pas encore de...
Mais vous parlez même pas du Boxing Day, vous parlez de tout.
Annie, parce que cette séquence, séquence pour Liverpool s'étend sur 17 jours. Je finis. Tottenham va jouer ses 5 matchs sur 12 jours.
Vous avez
vous avez 5 jours entre le calendrier de Tottenham et celui de Liverpool. 5 jours, c'est presque une semaine. Ça veut dire que Liverpool a vraiment le contexte idéal pour récupérer entre les matchs.
On a compris. Alors Rémi, à vous. Est-ce que l'invincibilité Liverpool... Je suis sûr que vous n'allez pas être d'accord avec Xavier.
Je me trouve dans le regret d'être l'avocat du diable de Barry. Parce que je serais malheureusement d'accord avec lui. Parce que en réalité, le calendrier de Liverpool est beaucoup plus élastique et beaucoup souple. Le danger de Liverpool, c'était entre le 15 septembre et le 7 octobre. Parce que c'est la période où Liverpool enchaînait tous les 3 jours et des gros cadors. Rappelez-vous, il fallait que Liverpool se déplaçât au niveau de Tottenham. 3 jours après, c'est-à-dire que c'était le 15. Le 18, il venait, il recevait Paris. Par la suite, c'était Southampton. Par la suite, c'était directement Chelsea. Et après encore Chelsea. Deux fois avec Chelsea. Et puis, c'était avec Naples. Donc, c'était hyper compliqué. Ils ont réussi à traverser cette période sans beaucoup laisser de plumes. Parce que là, je savais que c'était mort. S'ils se retrouvent actuellement être presque en tête de la première ligue, je peux le dire.
C'est pas presque, ils le sont.
Ouais. En tête de la première ligue.
Un point de plus que Manchester City.
Cela veut dire que maintenant, Liverpool est beaucoup plus organisé, même sur le plan du banc. Quand il me parle du banc de Liverpool, ce n'est plus le même. Il faut savoir que il y a des joueurs que Liverpool a eu à recruter, tels que Shaqiri, tels que les Baldé et tout et tout.
Shaqiri qui marque, hein, quand il rentre.
Et qui ne jouait pas, qui était blessé. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau de Liverpool, on peut noter juste quelques absents qui sont en train de revenir, peut-être, sauf peut-être Matip, qui est encore un peu trop juste. Il y a Arnold, qui est en train de revenir. Moi, je dis, cette équipe de Liverpool
tenir.
Cette équipe de Liverpool, quand vous regardez Robertson avec cette énergie qu'il a et quand vous regardez toute la qualité de cette équipe, je me dis, c'est difficile qu'on détrône ce Liverpool.
Bon, moi, je suis pas d'accord. J'adore la certitude de Rémi. Je pense que ça va être une séquence qui va être...
Rémi, Xavier, c'est assez rare.
Je finis l'année.
Ah ouais, la preuve, c'est que ton ton a baissé. Tu es vaincu.
Non, mais je veux dire, j'entends vos arguments. Moi, je les partage.
Une dernière question au sujet de ce Boxing Day et de cette période. Évidemment, vous pourrez la suivre grâce au service des sports pendant les 2 semaines prochaines et on en fera le bilan lorsqu'on reviendra. Mais on a Liverpool et Manchester City qui se tiennent à 1 point.
Oui.
Ensuite, on a 3 équipes qui se tiennent en 5 points. Tottenham, Chelsea et Arsenal.
Et après, Man United.
Voilà. Manchester United, déjà très largué, parce qu'ils sont à 8 points.
À 11 points de la 3e place, de la 4e
place. Oui, mais ils sont à 8 points du 5e, qui
est
Arsenal.
Ils sont distancés, clairement.
Voilà. Et on a l'impression qu'on a en fait presque 3 championnats maintenant dans ce...
Oui, c'est intéressant. Alors, chaque année, finalement, j'ai l'impression qu'on est sorti du Big Four, c'est plus un Big Six maintenant. En l'Angleterre. On a un championnat de la première partie qu'on peut nommer le Big Six. Parfois, il y a une équipe qui peut être décrochée parmi les favoris ou ceux qui sont considérés de ce niveau-là. Parfois, ça a été Arsenal. Là, c'est plutôt Manchester United qui décroche.
Mais là, c'est plus un Big Five, en fait. Parce qu'après, il y a un énorme gouffre entre le cinquième et le sixième.
Et après, ce qui est passionnant aussi, en Angleterre, on en parle un petit peu moins, c'est quand même toujours la course à la relégation parce que tu as toujours des noms et des grands clubs, pas des grandes équipes, mais des grands clubs qui sont concernés. Même là, si je sais que c'est plutôt Cardiff, Burnley.
Non, là, c'est Burnley, Huddersfield et Fulham.
Ouais. Fulham qui a quand même investi 100 millions d'euros, et notamment avec des internationaux africains, Jean-Michel Seri, et le Camerounais, votre compatriote Zambo Anguissa. Il y a Anguissa sous roche pour eux, excusez-moi mon cher. Vous avez des proverbes, nous on a des blagues, on a de l'esprit aussi. Également, donc, bon, en fait, pour moi, il y a surtout un championnat. Il y a un match dans le match, c'est Liverpool City.
Et après, il y a
trois ou quatre équipes qui se battent pour être dans le Big Four et donc être qualifiées en Ligue des Champions la saison prochaine. Et parmi ces équipes qui se battent, il y a le retour quand même d'Arsenal sous la houlette d'Unai Emery.
Tu as oublié Chelsea. J'ai l'impression que tu ne cites pas
non,
Chelsea.
Non, ils y sont, Rémi.
Ah, oui,
il y a
Tottenham,
Chelsea et Arsenal.
Parce qu'il a dit, je pensais Liverpool, City.
Je pense que les auditeurs comprendraient pas si on parlait pas un peu de Manchester United, parce que quand même, ils ont un gros atout pour cette deuxième partie de saison, c'est qu'ils ont plus José Mourinho comme entraîneur. Donc c'est quand même une grande chance.
Mais est-ce que c'est pas trop
j'imagine
tard
que c'est jour de deuil pour Rémy N'Gono, mais ce qui est quand même une chance extraordinaire pour Manchester United, c'est que ils vont pouvoir libérer les qualités de ces joueurs, et je pense qu'Ole Gunnar Solskjær, qui connaît bien le club, pourra y avoir été lui-même entraîneur. D'ailleurs, sa conférence de presse était très intéressante tout à l'heure, parce que il a expliqué aux joueurs qu'il allait leur parler, mais que effectivement tout le monde pouvait pas être titulaire, et comme lui son surnom c'était Super Sub parce que c'était un remplaçant, il rentrait pour marquer.
Il a dit
mais moi je sais ce que c'est que d'être remplaçant, donc je peux leur en parler. Et donc je trouve que ce discours hyper positif et peut laisser entrevoir une belle deuxième partie de saison pour Manchester United.
Rémi, est-ce que c'est pas trop tard quand même pour Manchester United de s'être séparé seulement maintenant, alors qu'ils sont à 8 points du 5e, de s'être séparé maintenant de
pourquoi
Mourinho?
Pourquoi s'est séparé même d'abord de Mourinho? Moi je dis, il fallait
le garder.
Non, il fallait le garder, moi je le dis très très bien, parce que jusqu'à présent, et d'ailleurs ça me fait beaucoup rigoler, parce que en même temps, Xavier Barré défend des entraîneurs ici dont je peux donner le bilan. C'est-à-dire qu'on me dit, par exemple, que voilà Pochettino, qui est super grand entraîneur, mais je me rends compte que depuis qu'il est à Tottenham et depuis qu'il a recruté, avec 169 matchs, il a zéro trophée. Je me rends compte que José Mourinho... Attendez, c'est trois trophées. Mourinho, c'est trois trophées.
Ouais, c'est des consolations.
Et lorsqu'on regarde après Pep Guardiola, au niveau de la Première Ligue, après Pep Guardiola, c'est Mourinho avec le nombre de victoires qui est de 58,3%. Quand vous regardez celui qu'on appelle Pochettino, c'est 56%. Et quand on regarde maintenant celui que vous appelez par exemple le Klopp, c'est 54%. Et vous dites que c'est un mal pour Manchester et tout. Qu'est-ce que Manchester United gagnait sans Mourinho? Laissez-nous ça. Lorsque vous avez un danseur de rap comme Pogba, lorsque vous avez un chasseur de rap palmiste comme Alexis Sanchez, lorsque vous avez encore... Mais c'est pas possible.
Mais Rémi,
un petit proverbe, Rémi, un petit proverbe pour José, non? Bon, si vous en trouvez un,
oui, c'est vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a acheté, bien sûr, des gens comme Paul Pogba qui sont hyper chers, 99 millions d'euros et d'autres et tout.
Mais malheureusement,
on a vu qu'il ne valait pas grand-chose, comme le dit donc un proverbe africain. Ce n'est pas parce qu'on dort sur un lit en argent qu'on vaut de l'or.
Ouais, enfin Mourinho l'a quand même claqué plus de 400 millions d'euros pour recruter 11 joueurs en 2 ans et demi à Manchester United, et il a trouvé le moyen
de déclarer
il y a quelques temps. Ah oui, mais j'ai pas les joueurs qu'il me faut pour jouer. Non, mais il en a recruté 11, 400 millions
après,
d'euros, c'est une catastrophe.
Après, si je peux me permettre, j'entends ce que dit Solskjær sur le fait d'aller sur le banc et de rester concentré, être un grand professionnel, mais il y a des joueurs qui sont pas nés pour être sur un banc, et ils ne le comprendront et ils ne l'entendront jamais. Ce que j'ai en revanche trouvé intéressant dans son discours, ce que font pour moi des entraîneurs intelligents, comme Zidane par exemple quand il reprend le Real Madrid, c'est que il pointe bien son joueur le plus important, il le valorise et il dit que c'est le meilleur joueur de la planète. Alors je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord Rémi, mais le fait de relancer Pogba en disant je vais construire mon équipe autour de Pogba, le joueur le plus important de mon effectif c'est Pogba, ça les joueurs en sont extrêmement
sensibles. Surtout qu'il a l'air populaire dans le vestiaire en
plus. Donc voilà, en revanche pour moi, ça c'est intelligent en termes de management.
Pour la coiffure.
Un petit tour du côté de l'Italie, parce que le Boxing Day, alors ils n'ont pas traduit spécialement les Italiens. Matteo Cioffi m'a dit non, du Boxing Day ici aussi. Ben pour la deuxième année, les tifosi apprécient beaucoup ce moment où il y aura bien des matchs là-bas aussi le 26 décembre. Et d'ailleurs, m'a dit Matteo, l'affiche de ce Boxing Day qui est Inter Milan Naples est déjà complet pratiquement.
Oui, c'est
le deuxième contre le deuxième qui va jouer chez le troisième.
On voit l'évolution de la Serie A, c'est intelligent. Donc pour moi, ils reviennent sur le devant de la scène, non pas seulement par les résultats, même s'il y a seulement deux équipes qui sont passées sur quatre, mais on a vu que ça soit Naples, ils avaient quand même renvoyé une bonne image du championnat italien parce qu'ils avaient bien joué. L'Inter de Milan qui est tombé dans un groupe difficile, notamment avec le Barça et Tottenham. L'arrivée de Cristiano Ronaldo qui est une locomotive absolument exceptionnelle.
Médiatique.
Et je vais vous dire, moi, ma sensibilité, c'est que il y a quelques temps, j'avais plus envie de regarder des matchs de Serie A, et quelque part, je retrouve de l'appétit, de l'appétence pour la Serie A, même si ça reste pour moi en dessous de la Liga ou de la Première Ligue.
Non, mais ce qui est intéressant, Annie, j'ai fait un papier là-dessus, donc je peux expliquer une petite chose à nos auditeurs, c'est que
tu utilises aussi le portable.
C'est un article. Un article.
Oui, un article. La saison dernière, c'était les quarts de finale de la Coupe d'Italie qui avaient été calés le 26 et le 27 décembre. Et il y avait notamment un derby de Milan qui avait fait 48 721 spectateurs à San Siro, ce qui était une affluence inhabituelle. Et du coup, ça a donné cette idée aux dirigeants italiens. Ils ont dit, mais attendez, si on faisait un Boxing Day à l'italienne à cette date-là. Voilà. Et ils ont eu l'intelligence de faire tous les matchs le 26, la Juventus joue, le Torino, tout est sur le même jour pour installer ce rendez-vous.
Et le 29.
Une journée le 29 comme la saison dernière et une autre journée le 5 janvier. Et par contre, eux, à la différence des Anglais, vont faire ensuite des vacances pendant 15 jours.
Mais ils vont faire des Anglais aussi cette année maintenant.
L'année prochaine. Mais je trouve que c'est très intelligent ce que font les Italiens. On va voir, il faut qu'en France on suive effectivement résultat de des affluences notamment. Et puis pas que des affluences dans les stades. L'autre élément important, c'est les audiences télé. Et vous savez que les Italiens ont un nouveau contrat télé et que ce contrat télé donc est moindre que ce qu'ils espéraient. Et donc c'est une innovation très importante pour eux d'un point de vue business.
Pour terminer, la question va pour vous Rémi. Est-ce qu'il a fait un bon choix, Cristiano Ronaldo, en allant à la Juventus ?
Super choix parce que à une certaine période...
Il marque moins, il n'est pas le meilleur buteur actuellement, il a marqué 11 buts en 16 matchs. Et finalement, la Juventus, on le sait, elle a déjà eu, si je me trompe pas, 6 titres consécutifs. Donc, elle avait peut-être pas besoin d'un Cristiano Ronaldo à 100 millions d'euros.
La Juve avait justement besoin de Cristiano Ronaldo dans la mesure où le Real n'accordait pas autant d'importance et autant d'amour dont Cristiano Ronaldo a besoin. N'oubliez pas que Cristiano Ronaldo, sous Benitez... avait flanché parce qu'il n'avait
pas flanché avec Zidane.
Mais avec Zidane, parce que Zinedine Zidane lui accordait cette importance, il avait retrouvé son peps. Et quand on voit l'amour que lui porte le président et le coach, l'importance qu'il a, cela veut dire qu'aujourd'hui, il s'épanouit au niveau de la Juve. Et quand vous dites, par exemple, que oui, c'est 11 buts en 16 matchs, n'oubliez pas que même à Madrid, quand il commençait la saison... Il n'avait pas marqué pendant les trois premières journées. Et d'ailleurs, ça aussi était la même chose au niveau de la Juve. Il n'avait pas trouvé ses empreintes. Mais cette fois-ci, il est dans le match et il est en même temps passeur. Ce qui signifie qu'il est le joueur le plus décisif de la Serie A. Et sur, quand vous regardez sur 14 matchs, il est totalement 10 fois l'homme de match. Et vous regardez que sur 3 mois, il est 2 fois l'homme du mois. Donc, moi, je me dis,
oui,
il a fait un très
aussi.
Bon choix. Voilà.
Les Belges ont aussi désormais un Boxing Day. Ça sera des matchs entre les fêtes aussi, 26 et 27 décembre. On aura notamment Charleroi, Standard de Liège, comme
Le derby wallon.
Finalement, il y a presque que la France et l'Espagne qui y tardent. Bon, en France, donc pas de Boxing Day, dernière journée du championnat de France. On a l'OM qui ira jouer à Angers et qui. Pas simple, mais surtout qui a beaucoup de choses à se faire pardonner. Juste une question, je vais la poser à Nabil. Est-ce que à l'OM, le salut viendra du mercato ?
Il devait déjà venir du mercato de cet été. C'est un fiasco absolu avec trois recrues qui ne sont pas au rendez-vous. Kaleta Kar, Strootman et Radonjic. La marge de manœuvre est beaucoup moins importante à Nice pour Marseille puisqu'on a dépensé tout ou quasiment tout l'argent cet été. Il va falloir recruter malin, recruter radin. il va falloir on parlait d'être prêt tout à l'heure. Il va falloir peut-être aller réussir des prêts sur les bancs de grands clubs. Vous avez des joueurs qui ne jouent pas, qui ne sont pas satisfaits. De leur situation. Il y a le mercato, c'est une chose, mais il y a surtout maintenant de savoir est-ce que Rudy Garcia a encore un discours.
Du crédit.
Ouais, un discours qui est capable et des leviers psychologiques qui sont capables de remobiliser quand même un effectif qui est globalement quand même de qualité, mais qui ne produit pas le football qu'on attend.
Une petite question à vous, Xavier. Monaco, deuxième l'an dernier, avant-dernier, en zone de relégation depuis des jours et des jours, hein, depuis que notamment son entraîneur portugais
Leonardo Jardim.
Jardim est parti. Thierry Henry, malheureusement, n'a pas encore changé les choses. Il joue contre Guingamp durant le week-end, c'est le dernier.
Oh là là, c'est un match incroyable.
C'est le match de la mort, mais est-ce que pour eux, le mercato sera bénéfique?
Mais je pense pas que la solution pour Monaco soit dans le mercato. Ils ont déjà, je sais pas, 40-50 joueurs sous contrat. Le problème, c'est qu'ils ont trop de joueurs importants blessés. Et Thierry Henry vient d'arriver et la trêve est très courte. Elle est trop courte, je pense, pour qu'il arrive vraiment à imprimer sa marque.
Renforcer un peu les rangs.
Ah, mais là, excusez-moi, Annie, j'interviens parce que je travaille sur le mercato et hier sur le site de France Football pour qui je travaille. Je parlais de l'arrivée très probable. Et d'ailleurs, c'est à la une aujourd'hui de Fabregas. Mmh. Fabregas, c'est une option très sérieuse à l'AS Monaco. Lui qui ne joue pas du côté de Chelsea. Pep ou Pepe, je sais pas, le portugais, champion d'Europe également, c'est une piste très sérieuse.
Ah non, il voulait revenir au Real. Hein
oui, il reviendra pas. je continue. En fait, ils veulent
une recrue à Monaco. Hein.
Je donne des informations, Rémi, vous pouvez aller commenter si vous voulez après. Ils veulent une recrue majeure par ligne avec de l'expérience. Il y aura aussi beaucoup de prêts du côté de l'AS Monaco. Pardon ?
Et là, ils sont moins radins.
Bah, eux,
il y a une première division à préserver, ouais, une Ligue 1. Voilà.
Et Batshuayi également, l'international belge en attaque qui pourrait.
Mais là, ce n'est pas des informations, là, c'est des pistes. Parce que l'information, c'est quelque chose qui est confirmé. Donc, moi, pour l'instant, moi, je peux te dire.
Excusez-moi de travailler.
Oui, donc c'est pour ça que je dis, depuis que j'ai entendu que tel arrivait à Monaco, il n'est pas arrivé. Moi, j'ai vu ça dans tous les sites, comment est-ce qu'on annonçait tout ça, mais finalement, il n'arrive pas.
On verra ça au mois de janvier quand le mercato ouvre le 1er janvier et
on en reparlera de ce
on en reparlera voilà. Parce que d'ici le 31 on aura beaucoup le temps. Un moment de détente donc avant de prendre quelques jours pendant les fêtes. En musique, c'est quoi cette musique au fait?
C'est Magic System.
Magic System. Pourquoi on a choisi? Pourquoi Laurent Salerno a voulu mettre cette chanson aujourd'hui?
C'est parce qu'on est champion du monde, c'est le classement. Ou parce que le classement FIFA vient de tomber, on est deuxième, les Belges sont champions du monde du classement FIFA.
C'était la chanson qui les accompagnait, qu'on entendait dans le stade, que l'équipe de France avait choisi pour remettre dans le stade avant leur match et après. Alors, je vous donne on va faire un petit test sonore. Tous les trois, vous êtes dans les starting blocks.
Oh là, ok. On fait un blind test sur les musiques.
Alors, ça va pas être que des musiques. Ah. On vous passe un petit extrait sonore. Laurent Salerno lance le son. Vous nous dites ou qui parle ou qui marque ou et surtout dans quelles circonstances. D'accord. Réponse, un point. C'est parti.
Vuol dire che al posto del cuore c'hai non lo so cos'hai, hai un bidone dell'immondizia.
Oh, ça c'est Buffon. Gigi Buffon après l'expulsion à Madrid, ça.
Voilà, c'était donc la demi-finale.
Il a dit, il parle de l'arbitre là.
La demi-finale de Ligue des Champions.
Real Madrid Juventus.
Voilà, quand le Real élimine la Juventus et qu'on se souvient, il prend son carton rouge, Gigi Buffon, qu'il est furieux et qui dit que l'arbitre a une poubelle à la place du cœur, ça lui a valu 3 matchs de suspension. Il dit à un moment aussi d'ailleurs un crime contre l'humanité sportive. Il était un peu sorti de ses gonds. Parce qu'on revisite un peu l'année 2018. Hein. Ouais. Allez, on y va.
Le ballon arrive au second poteau. La frappe, le but, la demi-volée en pleine lucarne.
Pavard avec l'équipe de France en 8e de finale de la Coupe du Monde qui a relancé les Bleus et qui a fait basculer dans l'irrationnel le parcours des Bleus avec une frappe venue se loger en pleine lucarne du gardien argentin dont je me souviens plus le nom, Armani je crois.
Qui commente?
C'est Hugo Moissonnier.
Ah oui, mais on posait quelle question? Qui parle?
Non, j'ai dit qui parle ou qui a marqué le but.
Ah là là, mais okay. Là c'est compliqué.
Attends, bah oui, parce qu'il n'y avait pas le nom du buteur.
Mais c'est ça qui est.
Il n'y avait pas le nom du buteur.
C'est ça qui est malin. Il n'y a pas le nom du buteur.
Non, je ne vais pas vous poser des questions sur tous les commentateurs.
Pour l'instant, Xavier 1, Nabil 1 et Rémi 0. C'est surtout ce qui se passe.
Ça va venir. Justement, allez, quand un grand monsieur prend la parole,
tomé la décision de ne pas seguir.
Zidane, je dis avant toi. Je suis d'accord parce que c'est une émission sympa et on est pas.
Ok,
mais tout le monde a écouté.
C'était quand Rémi Zidane?
C'était au mois de
juillet. Vas-y.
Oui, c'était au mois de juillet.
Non, c'est pas au mois de juillet. C'est le mois de juillet, c'est la Coupe du Monde. C'était au mois de mai.
C'est au mois de mai. Qu'est-ce qu'il dit Zidane en fait? Zidane dit qu'il part.
Ouais, voilà.
Ah oui, bien sûr.
Et c'était au mois de mai. C'était ça peut pas être au mois de juillet, on après la finale.
C'est Lopetegui qui l'a vu.
Il expliquait.
Mais Lopetegui,
il expliquait.
Non, mais c'est fin mai, début juin.
C'est quand il annonce que 3-4 jours après la finale.
Mais vous allez accorder un point à Rémi, parce que
je vais mettre des demi-points.
Il est en retard, il est incapable de nous expliquer quoi que ce soit.
Je vais mettre des demi-points.
Je crois que la finale était le 29 mai, non? Donc ça se passe un peu après.
Alors là, ça ne pouvait pas être en mai. Puisque
si, la finale est le 26.
C'est
le 28 ou le 29.
Oui, mais après, vous ne pouvez pas dire qu'il a juste annoncé.
C'est pas très grave.
En tout cas, c'était bien Zidane.
Oui, mais c'était pas en mai.
Vous avez un demi-point, c'est déjà bien.
Non, mais c'est le cas par mai.
Non, mais il va finir en négatif, Rémi, sur.
On continue. Alors là, ce sont des compliments, mais qui avaient été tweetés, donc ils sont lus. Je vous demande pas le nom de la personne qui lit, mais je vous le dis, c'est Hugo Moissonnier. Qui a écrit ce tweet?
Si Kylian continue à égaler mes records comme
Je vais dire avant un niveau, je vous jure que c'est moi. Non, mais faut Xavier, tu peux reconnaître. Là. On peut demander l'arbitrage vidéo à notre réalisateur.
Aïe.
Alors, il a dit exact. Donc,
c'est pelé.
Allez, deux
pelé,
pour Nabil et un chacun.
Je suis à trois en vérité.
Ah non, mais il faut expliquer la circonstance.
Tu n'existes pas.
Avec Mbappé. Attendez.
C'était quoi ce tweet?
C'est pelé, évidemment.
C'est-à-dire que à la Coupe du Monde, lorsque Mbappé fait ce somptueux match contre l'Argentine et tout. Voilà, c'est comme ça.
Ouais. Et que voilà. Pelé dit je vais aller décrocher mes crampons.
C'est très sympa comme compliment d'ailleurs.
Allez, écoutons ce grand personnage qui a pris du recul.
J'ai fini effectivement les entraînements. Si ça me fait du bien, j'ai l'impression d'être dans une période de vacances. Donc ça me manque pas tant que ça.
Attendez. Alors je crois Laurent qu'il va falloir le repasser parce que un grand monsieur qui parle de vacances.
J'ai fini effectivement les entraînements. Si ça me fait du bien, j'ai l'impression d'être dans une période de vacances.
Viens là.
C'est pas Thierry Henry?
Non, c'était cette année. Hein. Ah, c'était un événement cette année.
Oh là là.
Qu'est-ce qui raccroche?
Un grand monsieur africain qui nous a parlé dans Radio Foot International il y a pas longtemps.
Didier Drogba qui annonce sa retraite internationale.
Et alors il l'annonçait pas sur l'antenne de RFI, mais par contre il réagissait.
C'est Didier Drogba.
Voilà.
Vous pouvez mettre le point.
Quand on lui a dit.
Vous savez ce que je vais faire?
À combien
j'ai
mis le
point?
Allez,
je vais en donner un parce que je sais pas où il est.
Vous avez plus le droit de jouer.
Ah non, je suis au-dessus de toi. T'es en négatif sur.
Écoutez bien. Qui a dit cette phrase?
One simple word. I will miss you.
C'est en anglais.
Wayne Rooney.
Dans un grand stade.
Wayne Rooney.
Non, en 2018.
En 2018.
Événement de 2018.
Tu as déjà échoué. Donc tu ne continues pas à donner des réponses.
On le
remet.
Arsène Wenger qui quitte Arsenal.
Ah oui.
Qu'est-ce que je t'ai mis?
Il est trop fort.
Ah oui, sauf qu'on ne donne pas deux fois la réponse. Hein.
Oui,
apparemment, vous avez donné quatre noms, cinq noms.
Si on attend que tu donnes une réponse, l'émission est terminée.
On a le droit d'en donner plusieurs, hein, Rémi. Okay.
Il fixe les règles en plus.
Bon, allez, encore
un. On n'est pas à la CAF. Hein.
Encore un. Incredibile palla per te!
La prima volta in Italia! Le but de Cristiano Ronaldo, le premier but de Cristiano Ronaldo avec la Juve.
Voilà, bravo,
Xavier. Pas mal.
Ah, j'ai deux points quand même.
Et Rémi, combien?
Allez, ce dernier, c'est très difficile, mais on l'écoute quand même. Dédicacé à Alejandro Valente.
Qui chante?
Non.
Manu Chao.
On pourrait y penser.
Shakira. Non, c'est un homme.
C'est un joueur de
comment,
foot qui chante.
Comment Shakira un peu chanté,
Diego Maradona. Diego Maradona.
Non. Il a marqué plus de 300 buts déjà dans sa carrière.
Neymar?
Non, c'est en espagnol.
Pressé.
Non, il a pas marqué 3 buts.
Qu'est-ce qu'il fait?
Allez, la langue au chat.
C'est un Argentin, non?
C'est un Argentin ou pas? Aidez-nous, Annie. C'est un Argentin? Higuain?
Presque. Non,
Agüero?
Exactement.
Kun Agüero aussi.
Le Kun Agüero qui a été d'ailleurs longtemps marié avec une chanteuse argentine et qui aime bien se filmer avec son portable en train de chanter.
Je trouve qu'il chante vraiment.
En tout cas, là, il chantait avec un groupe qui s'appelle Los Leones. Peut-être qu'il fera comme Noah.
Ah, mais il chante juste, hein.
Ouais.
Alors, c'est la première fois que j'entends. Un point pour être fait. Ça me fait une pointe supplémentaire.
Ça lui fait un point. Voilà. Et bien voilà, c'était ça. Hein, c'est le petit test sonore. Bon, bravo Nabil Djellit, oui, parce que vraiment. Mais Nabil, il a l'habitude, il en fait souvent des tests comme ça. Alors évidemment, il se retrouve.
Net succès de Nabil.
Il a une grande réactivité. Et merci à toute l'équipe de Radio Foot, parce que on a essayé de rendre ça un petit peu corsé, mais on vous en fera d'autres à des moments de fin de saison. Et merci à Xavier. Allez, session. Et bien, on va s'arrêter sur la session des cartons aujourd'hui.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Oula là là là, carton rouge.
Carton rouge dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Les cartons. Alors, on commence avec qui ? Allez, Nabil. Nabil, je crois qu'il aime bien le rouge de RFI.
Ouais, je vais mettre un carton rouge à la CAF pour notamment. La liste des 10 derniers joueurs nommés pour le joueur africain de l'année. Je trouve, soit ils regardent pas les matchs, soit ils s'intéressent pas au football africain. Mais l'absence.
Il y a Rémi qui vous envie votre carton.
L'absence. Ah, je vous ai enlevé votre carton, Rémi.
Non. Parce que je suis d'accord déjà. Avec
alors l'absence du Sénégalais Koulibaly est pour moi.
Parce que j'avais déjà parlé.
L'absence du Sénégalais Koulibaly est complètement surréelle, surtout que c'est un garçon qui aurait dû être sur le podium. L'absence de l'international marocain, qui est peut-être le meilleur joueur marocain actuellement qualifié en huitième de finale de la Ligue des Champions, qui va affronter le Real de Madrid, l'Ajax, Hakim Ziyech est absolument lunaire. Je trouve que c'est une manière de discréditer ce trophée que de ne pas voir ces garçons dans la liste finale. Voilà, c'était mon carton rouge.
Des récompenses qui seront remises à Dakar le 8 janvier prochain. Xavier Barré, la couleur de votre carton.
Moi, j'avais préparé un carton pour l'ensemble de la saison, en fait.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, un carton vert pour le VAR.
Je crois qu'il y en a aussi, d'ailleurs.
Un carton vert pour le VAR, parce que on l'a beaucoup critiqué. Rémi Ngono n'a
donc
eu de cesse.
Donc, le système d'assistance
vidéo à l'arbitrage.
Non, c'est moi le plus grand promoteur du VAR.
Alors, on va être d'accord une deuxième fois dans l'émission.
Mais c'est pas possible.
On finit l'année
c'est
en festival.
C'est toi avec Sheriff Guémo, qui vouliez toujours utiliser la lampe tempête. C'est ça que je vous disais.
Non, moi je dis bravo à la mise en place de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Ça avait d'ailleurs plutôt bien commencé la saison dernière, avec notamment l'Italie, l'Allemagne par exemple, qui l'avait déjà
adopté.
En championnat. En France, c'était pour la Coupe de la Ligue, je crois. Cet été, il y a eu la Coupe du Monde et l'assistance vidéo a globalement été un vrai succès. Depuis, la France l'a adopté, l'Espagne aussi, et l'Angleterre et la Ligue des Champions de l'UEFA qui ne l'avaient pas adopté se retrouvent vraiment en retard. Et donc vont précipiter.
Essaye de rattraper
action,
un peu les choses.
L'UEFA dès la reprise en février pour la Ligue des Champions. Donc je dis bravo à ceux qui ont su faire la mise au point de ce VAR et carton vert au VAR.
Donc à l'assistance vidéo. Rémi, votre carton.
Boubacar Zedouzouboy de ma page Facebook Rémi Ngon officiel met un carton rouge aux dirigeants du football malien qui, depuis très très longtemps, à cause des conflits d'intérêts, ont totalement pollué le football dans ce pays-là. Résultat des courses, le championnat est quelconque, voire inexistant. Et la conséquence est bel et bien là. Les clubs maliens ont des très grosses contre-performances au niveau des coupes de la CAF. Donc, pratiquement, c'est les petits clubs qui subissent, comme le dit donc un proverbe africain. Quand les gorilles bagarrent, ce sont les petits singes qui ont le dos brisé.
Carton rouge de Radio Foot à Nike, carrément, l'équipementier qui boycotte, dirait-on, les supporters de l'équipe de France. Pas plus que cet été, après le sacre des Bleus, les maillots portant les deux étoiles se retrouvent facilement dans les magasins. Alors, pauvre Père Noël, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont dû mettre ça sur leur liste de cadeaux. Et le Père Noël, il va s'arracher les poils de la barbe parce que c'est assez incompréhensible. Nike n'a pour l'instant livré que 50 000 maillots. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Vive la contrefaçon, 2 à 300 000 maillots des faux bien sûr, qui ont été vendus. Adidas en avait vendu 800 000 en 98 après le titre de l'équipe de France. C'est un peu incompréhensible. Mais bon, c'est la fin de ce Radio Foot International. C'était le dernier de l'année 2018. Merci beaucoup messieurs. Merci à Laurent Salerno qui nous accompagne.
Et bonne année.
Merci aussi à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer l'émission. Merci à tous ceux qui ont collaboré cette année 2018 à Radio Foot International. Et merci au service des sports avec qui vous avez rendez-vous, qui vous tiendront au courant de l'actualité pendant les deux prochaines semaines. Retour le 7